R22 tout le monde, antenne Kiasma. Kiki sont une tribu qui habite un site montagneux dans le nord-est de la Colombie, ce qui s'appelle le nœud de Paramillo. C'est un site montagneux assez difficilement accessible et ils vivent principalement à l'intérieur des vallées de ce lieu relativement peu accessible. C'est un peuple qui vit à cet endroit-là depuis très longtemps, on pense depuis la fin des temps. C'est une histoire qui est assez peu, comment dire, connue et relatée, et dont on connaît un point relativement important, d'où vient d'ailleurs la chanson dont j'ai juste donné une des variations. Il en existe à peu près 3000. Et cette variation de la chanson, c'est la variation de la chanson qui s'appelle « Hoe ». Et alors, excusez-moi. Hoe est un personnage important dans l'histoire des Pikiki, qui en fait rencontre cette groupe ethnique au IVe siècle principalement. Donc on sait, à partir d'un ensemble de chants qui précèdent cette période-là, qu'on appelle pré-Hoe, que les Pikiki avaient déjà une tradition de chansons, mais on ne connaît aucune chanson de cette période-là. On sait que Hoe rencontre les Pikiki au IVe siècle, et c'est l'histoire que je vais raconter aujourd'hui. Ce qui est particulier dans la langue Pikiki, c'est une langue où il n'y a absolument aucune consonne. L'ensemble de la langue est composé d'une variation à partir de quelques voyelles, qui finalement sont assez peu nombreuses, mais assemblées avec différentes intonations et dans différentes positions, produisent à peu près 30 000 mots. Qui évidemment changent selon les situations, l'intonation et la dramaturgie dans lesquelles on les inscrit. Hoe, dans cette orthographe-là, signifie Hoe, le personnage. Mais si on l'écrit autrement, par exemple, je vais l'écrire Hoe, vous voyez la nuance, le Hoe, où là on a vraiment le Hoe et le E qui se serrent, et le Ho, où il y a un espace entre le Ho et le E. Le « he » signifie globalement les hommes, mais aussi les femmes, et on pourrait dire globalement une forme de « nous ». C'est un mot qui n'a pas de genre, il n'y a pas de singulier et de pluriel, c'est les Pikiki, il n'y a pas non plus de genre féminin ou masculin. Donc on dira « he » pour une femme, comme on dira « he » pour un homme ou même pour un enfant. Si on ajoute, et là je vais vous donner quelques précisions, ça va nous aider en fait pour la suite, si on utilise maintenant le terme, je vais l'écrire à côté, le terme « ha », et dans la chanson on entendait hein, ce « ha », le « ha » a deux significations. Soit en fait il indique une unité en termes d'espace, et principalement dit où nous sommes, et principalement dit « on est ici », donc « ha » au sens de « on est ici », selon où on le place dans le mot, ou alors il indique une idée d'antériorité, ce qui est avant. Ce qui fera que Hoe ha signifie le père, mais aussi la mère. Hoe ha ha signifie le grand-père et la grand-mère. On ne va pas beaucoup plus loin que ça. Mais là, vous avez déjà la composition de l'antériorité. En termes de lieu, on compose un autre mot qui est ha, ho-e. Nous, ceux qui sommes ici, et c'est un des noms génériques qu'utilisent les Pikiki pour s'appeler, mais vous verrez qu'il y a un nom qui est plus courant que celui-ci. Mais le ha exprime ici l'endroit où on se trouve, et on en parlera tout à l'heure, il s'oppose au ho, dont certains disent qu'il signifie l'endroit qui est ailleurs. En réalité, il est simplement l'opposé du ha, et on verra que selon les situations, ça veut dire plusieurs choses différentes. Donc, chez les Pikiki, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas en fait de genre donc féminin-masculin dans la langue, mais il n'y a pas non plus d'organisation sociale, en fait. Il n'y a pas vraiment de famille. Et c'est une population qui n'a en fait pas vraiment de tradition, et pour tout dire, pas vraiment non plus d'activité. Donc, les Pikiki pourraient être ce qu'on appelle un peuple oisif. Ils sont sédentaires, essentiellement par absence d'envie d'aller autre part. Et ils n'ont pas vraiment en fait de tradition culinaire. Ils ne chassent pas. Et ça, on sait qu'ils ne chassent pas essentiellement par lâcheté. Et la lâcheté chez les Pikiki n'est pas quelque chose qui pose un problème. Ils ne chassent pas par peur des animaux, mais par absence d'envie. Et le mot d'ailleurs « peur » et « absence d'envie » est le même mot. Ainsi, donc, c'est un peuple qui, depuis des longs siècles, est resté cantonné. Alors, il faut vous imaginer, en fait, l'endroit où on se trouve, ça va être des espèces de cirques. On est au nord-est de la Colombie, sur la face occidentale de la cordillère des Andes, donc des lieux qui sont très, très peu, accessibles et très difficiles d'accès. Et pendant très longtemps, en fait, ces peuples, en tout cas des premiers siècles jusqu'au IVe siècle, où arrive Ho'e, vont vivre une vie principalement d'oisiveté. Certains disent de manière un peu, rapide, qu'ils vivent de la cueillette et du grappillage. Bon, en fait, ils vivent de ce qu'ils trouvent le plus près de chez eux. Alors, on sait qu'il n'y a à la fois aucune espèce de forme de hiérarchie entre eux. Il n'y a pas vraiment de chef, il n'y a pas vraiment, en fait, de gens qui servent les autres. Et d'ailleurs, personne n'est au service de personne chez les Pikiki, puisqu'en fait, il n'y a aucune activité vraiment productive. On se rend compte, et là on a quelques renseignements sur la question, qu'ils ont un vague goût pour la question vestimentaire, mais associé à une forme d'oisiveté, ça se limite vraiment à des vêtements en écorce d'arbre. Mais la plupart du temps, en fait, ils sont nus. Alors on va se dire, mais que font-ils de leur temps ? Alors il y a une chose qui est importante et qui n'est donc pas rien, les Pikiki discutent. Et donc passent leur journée du matin au soir en cercle, donc à manger ce qu'ils peuvent avoir à peu près à la distance de leurs bras, et ils ont des discussions et des longues discussions essentiellement basées sur le récit des visions et des rêves. Alors là, il y a un peu deux écoles. Moi, je suis forcé d'aller un petit peu vite ce soir, mais disons que ce n'est pas exactement des rêves qu'ils racontent, c'est plutôt des projections. Projections de ce qui n'est pas là. Alors on verra, parce que pareil, certains dans les traductions disent que le O exprime plutôt la grandeur, d'autres disent que le O exprime plutôt ce qui n'est pas là. Moi je suis plutôt, en tout cas dans les chants que j'ai appris, familier du I pour dire ce qui n'est pas là. Par exemple, la personne qui n'est pas là pourrait s'écrire hi-ho-ha, c'est-à-dire celui qui habituellement est là mais n'est pas là, ou alors en réduction hi Ha, c'est-à-dire nous qui sommes là, mais qui ne sommes pas là, qui donnera d'ailleurs, on le sait plus tard, le mot cinéma. D'où cette idée de la projection d'une chose qui serait là, mais qui n'est pas là. Bon, alors après, on pourra en discuter après, parce que je sais qu'il y a des personnes qui contestent l'usage du « hi », et ça c'est aussi une question d'oreille. Des gens pensent que le « haut » exprime beaucoup plus la distance que la grandeur. Nous en reparlerons. Pour revenir en fait au Pikiki, donc une journée standard de Pikiki se construit autour de l'idée de se retrouver en cercle et d'échanger. Il faut dire qu'il y a une particularité dans les échanges et dans la langue Pikiki, c'est la présence du sarcasme. En fait, les Pikiki passent du temps, et passent presque tout leur temps, à dire du mal des uns des autres. Et alors, en présence des autres, évidemment, c'est un sarcasme devant les personnes qui sont là. Mais on pourrait tout à fait dire que ce type d'attitude va complètement contre la construction d'une communauté. Mais il ne faut pas oublier que les Piquiquis sont également relativement lâches, ce qui permet d'avoir une relative stabilité sociale, puisque le mélange du sarcasme et de la lâcheté fait que les Piquiquis passent de longues journées à échanger en fait sur divers sujets et principalement sur leur vision. Les visions ne mènent pas loin, puisque les Piquiquis ne quittent jamais en fait la vallée, restent toujours à cet endroit-là. Mais cependant, on aura retenu, en étudiant certains champs, des éléments de sarcasme. Et ce qui exprime le plus le sarcasme chez les Piquiquis, c'est l'usage du « hu ». Alors, ça, j'écris « hu », en fait, c'est plutôt « hu », avec quelque chose, on aspire ça. Et l'usage du « hu », je vais donner quelques variantes pour que vous le compreniez. Par exemple, on dira de celui qui ne se lève pas le matin, « hu ». Mais on pourra aussi dire, là j'ai deux exemples, mais à chaque fois, effectivement, l'orthographe peut être discutée. Donc, « hu », celui qui ne se lève pas le matin, ou à l'inverse, « hu », celui qui ne dit pas la vérité. Et alors, on pourra trouver quelques variations, notamment avec le « ha », qui signifie l'endroit où on se trouve. Vous aurez « hu ho ha », celui qui arrive toujours en retard au rendez-vous. Et alors, évidemment, « hu ho hu hu », celui qui faillote. Bon, il y a plusieurs variations, là je vous en donne quelques-unes pour que vous compreniez le sens. Ce qui est assez intéressant avec les Piquiquis, et qui va être quand même très marquant et un élément qu'il faut retenir, c'est que les Piquiquis n'ont absolument aucune espèce de forme d'ambition. Et alors, étonnamment, je viens de vous raconter quelques éléments de l'usage du « hu ». Alors, il y a quelques grands spécialistes qui n'ont travaillé que sur le « hu ». Moi, je trouve ça un peu démoralisant, alors je ne suis pas attardé. Cependant, on sait, et ça, ça a été avéré par plusieurs chants, tout à l'heure j'en chanterai un, que les Piquiquis eux-mêmes se prénomment « hu ho hu », ceux en qui on ne peut pas avoir confiance ou ceux à qui on ne peut rien demander. Et étonnamment, à la fois le terme est un sarcasme, mais est aussi une manière de se définir. Il n'y a pas de rite en tant que Piquiqui, cependant il y a ce corpus de chansons. Alors on parle de 20 000 chansons, 30 000 chansons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la langue Piquiqui a ça de particulier, qu'elle est sans cesse en évolution. Par ce système de voyelles qu'on ajoute, on peut exprimer un ensemble de choses de plus en plus précises, de plus en plus variées, et les chants eux-mêmes, lorsqu'ils sont réinterprétés, sont redits, répétés, ce qui crée un corpus relativement important. Longtemps, on s'est dit que c'était justement dans ce corpus de chansons qui existait et qui était conservé toute l'histoire des Piquiquis, et en fait, ça ne raconte pas grand-chose. Mais il y a une histoire qui revient, on peut dire que c'est une histoire quasi unique qui se répète sous différentes variations. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Il y a une raison, parce que je vais vous raconter en fait l'histoire de l'arrivée de Hoe chez les Piquiquis. Mais avant cela, pour que l'histoire soit complète, je vais introduire le hi. Alors, de manière acceptée, le hi serait ce qui n'est pas le Hoe. Donc, à partir de là, on peut se dire que ça peut être un ensemble de choses animées ou inanimées qui ne sont pas le ho, qui n'est pas un homme. Ça peut être un arbre, ça peut être une pierre, ça peut être un chien. Et dans le cas précis dont je vais parler, c'est un chien. Et en fait, on utilise couramment le hi chez les Piquiquis pour dire plutôt un animal, mais pas seulement. Mais dans un contexte vraiment de proximité, c'est plutôt un animal. Et on utilisera le terme hi-ha, un animal qui est là, pour dire un chien, un animal de compagnie. Un chien est mort chez les Pikiki. Un chien est mort et est laissé au milieu du village et personne ne veut s'en occuper. Pourtant, tout le monde est triste chez les Pikiki. Le chien du village, qui est d'ailleurs l'unique chien, est mort et gît au milieu de la place du village. On chante des longues soirées. Lors des discussions quotidiennes, on parle du chien mort. On partage de tristesse, mais personne ne veut s'en occuper. Et au bout de quelques jours, évidemment, la charogne du chien commence à sentir et crée des chants avec des variations de plus en plus dramatiques. C'est à ce moment-là, et un moment qui va marquer justement l'histoire des Pikiki, et on associera dans l'histoire, sans vraiment savoir quelle durée s'écoule en réalité, la mort du chien des Pikiki avec l'arrivée de Hoe. Assis au milieu de leur cirque, grande plaine entourée de montagnes, les Pikiki discutent du chien qui est mort. Quand paraît sur le flanc de la montagne un homme qui marche nu. Avec cette forme de géographie, on voit très loin et l'histoire raconte que pendant plusieurs jours, il le regarde arriver. Il marche, il est nu. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il porte des oiseaux sauvages accrochés à la taille et traîne derrière lui une biche. Selon les descriptions, et là c'est aussi à chaque fois dans des chansons, on dit qu'il a une coupe de cheveux exubérante. Ou alors, et là c'est une variation, qu'il porte des écorces sur la tête. Toujours est-il qu'au bout de 5 jours et 5 nuits, il parvient au cœur du village Pikiki. Il décroche les volailles qu'il a tuées de ses mains, les jette au visage des Pikiki qui discutent, prend la biche à bout de bras, la lance sur une femme et son enfant, ramasse le chien et s'en va. Les Pikiki restent assez interloqués, ne mangent pas d'animaux, y compris morts, et s'inquiètent de la pourriture de ce que vient de jeter cet inconnu. Il repart et le lendemain reparaît de nouveau. Il porte sur les épaules un sanglier et accroché à la taille, il a un canard. Attrapant un petit garçon qui passe près de lui, il lui donne des coups de canard sur les fesses. Sa mère ne se plaint pas particulièrement. Chez les Pikiki, on n'a pas vraiment en fait, de relation familiale et ni d'inquiétude pour les enfants. Le sanglier, lui, est jeté à même le sol et assomme à moitié un vieillard qui n'est pas plus sage qu'un Pikiki moyen. Repartant dans la montagne, cette histoire se poursuit. On raconte que pendant 100 jours, Hoe paraît dans le village Pikiki, jette des animaux, mais aussi parfois des pierres, se présente avec des bâtons, bat les vieilles personnes, fait tomber au sol ceux qui discutent et surtout refuse de parler. Au bout de 100 jours, avec le bois qu'il a amassé, la viande qu'il a rapportée, le feu qu'il a fait, Hoe devient le chef du village des Pikiki. Il s'installe dans un tipi. Les Pikiki n'ont pas de construction traditionnelle, ils n'ont pas de pratique de la construction. Lui, sur la mode indienne, fabrique un tipi dans lequel il s'installe et il rassemble toutes les femmes du village. Au bout de 100 autres jours, il est le mâle dominant du village Pikiki et repart cette fois-ci dans la montagne plus durablement. Quelques jours plus tard, il revient accompagné de 3 personnes qu'il a ligotées et qu'il dépose au milieu du village. Il continue ainsi pendant une durée qu'on évalue dans les chansons à 200 ans. Nous sommes au 6e siècle, les Pikiki qui n'étaient que quelques centaines quand Hoe s'est présenté sont maintenant plusieurs dizaines de milliers. La plupart des Pikiki sont des descendants de Hoe, qui est décrit comme un homme qui ne vieillit jamais, qui ne parle jamais, qui ne participe jamais à aucun rite, si ce n'est montrer ses visions aux Pikiki. Alors sur ce terme de montrer ses visions, pareil, moi c'est une recherche que je n'ai pas aboutie et il y a beaucoup de discussions là-dessus. On ne sait pas si ça veut dire raconter ses visions, mais on n'a absolument aucune preuve que Hoe parlait vraiment Pikiki, et il est presque sûr que non. Ou alors, il faisait peut-être des formes, on ne sait pas, des ombres chinoises avec du feu ou des dessins, mais on n'a absolument aucune trace de ça. Le terme dans la chanson qu'on entend et qui est justement hi-ya, signifie justement montre ses visions. Oh-ya. Il montre ici ses visions, il montre ce qui n'est pas là ici. Et alors, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont interpréter ces choses-là, mais en tout cas, cette idée de montrer ses visions va être quelque chose qui est important. Et ainsi, au VIe siècle, 200 ans après son arrivée, Hoa poursuit en fait son activité, et cette fois-ci part de plus en plus longtemps, et ramène de plus en plus d'hommes, de femmes et d'enfants dans la vallée, qui est maintenant quasiment surpeuplée. On est au 8e siècle, donc 200 ans plus tard, et on a, alors voilà, pareil, je parle un petit peu, ça peut être, comment dirais-je, une interprétation, en tout cas, on a ce qu'on appelle une guerre. Toute la vallée et tout le plateau est en guerre, il y a une guerre qui va durer de nouveau près de 100 ans, et on estime qu'à cette époque-là, alors que l'industrie est relativement peu développée et les moyens même techniques sont relativement faibles, le lieu enclavé, il y a près de 1 million de personnes qui disparaissent dans cette guerre. Alors ce qu'enseigne Hoe au Pikiki, ce n'est pas vraiment en fait un art de la guerre fait d'armes, de combat et de champs de bataille. Ce qu'il leur enseigne, c'est nuitamment d'aller dérober des troupes à l'ennemi. Et donc les Pikiki, menés par Hoe, ne vont pas affronter leurs ennemis, mais attendre de les voir endormis, les kidnapper et les emmener parmi eux dans la plaine. Alors on dira, et alors c'est la légende, que ce million de personnes ont tous été tuées par l'unique couteau de Hoe. Ça, c'est pas sûr. Cependant, en tout cas, il leur apprend cet art particulier du kidnapping, et donc il va lutter contre toutes les ethnies alentour en simplement subtilisant les troupes, homme par homme, femme par femme, jusqu'à remporter ce qu'on pourrait croire être une victoire. Cependant, on est au Xe siècle, et là, on perd la trace d'Hoe. C'est à partir de ce moment-là où, en fait, on ne sait plus où il est, et il ne va pas reparaître. Alors, il y a plusieurs versions. Certains disent qu'il est mort, sur le champ de bataille, mais c'est un peu contradictoire avec l'histoire qui dit que c'est un homme qui est à la fois immortel et qui ne vieillit jamais. Ou alors, et ça c'est la version principale des Pikiki, il quitte le plateau pour se rendre vers les villes et disparaît sous une autre identité. C'est-à-dire qu'il glisse sa particule Hoe dans un autre nom. Et là, on perd sa trace. Ça crée un rite, puisqu'en fait, toutes les chansons qu'on va retenir des Pikiki à partir de ce moment-là sont des chansons qui sont basées sur le phonème Hoe. Et ce qui est assez difficile, c'est qu'entre le Hoe, le personnage, et le Hoe, nous, les Pikiki, à l'oreille, on ne peut pas toujours discerner si on parle du personnage ou si on parle des Pikiki. Cependant, on peut retenir que les histoires qui sont racontées nous rapprochent beaucoup, en fait, d'espèces de contes héroïques et d'une geste, en quelque sorte, d'un héros. Les siècles passent et finalement, les Pikiki retrouvent leur vie habituelle. L'oisiveté est revenue. Ils se retrouvent chaque jour en cercle à se dire les pires choses. Ce rapport au sarcasme s'est réinstallé. La seule différence dans le rite, c'est qu'au lieu de se rassembler en cercle, les voilà maintenant en demi-cercle, face à la montagne. Et chaque jour qu'ils se lèvent, ils attendent le retour d'Hoe. Cela dure des siècles, et jusqu'à une période très récente, personne ne vient, et on finit par oublier les Pikiki dans cet endroit tellement inaccessible, ils reviennent à leur vie d'avant, c'est-à-dire une vie presque invisible. Alors, il faut attendre 1930, à peu près, autour de 1930, pour qu'on entende de nouveau parler des Pikiki et qu'arrive la suite de l'histoire. Oh. Les Pikiki appellent leur héros. Ue, c'est le fantôme de Hoé. U, c'est le masque. C'est la chose qu'on ne voit pas. Passe le siècle et rien ne vient. Les Farc s'installent dans la vallée des Pikiki. Les forces armées révolutionnaires colombiennes, menées par leur chef spirituel Manuel Marlanda, se réfugient dans les montagnes. Au départ, on se dit, qu'est-ce que les Farc vont bien pouvoir faire des Pikiki ? Et alors, les Farc expliquent aux Pikiki la révolution contre l'État capitaliste colombien. Évidemment, comme on peut s'y attendre, les Pikiki en ont juste rien à foutre. Ils passent beaucoup de temps et imaginent refaire leur éducation avec des écoles révolutionnaires. L'histoire de l'humanité leur est racontée à partir du principe de domination, discrimination, propriété de l'outil de production. Les Farc passent près d'une vingtaine d'années à essayer d'éduquer les Pikiki, jusqu'à se rendre compte que ce sont vraiment des sombres connards. Alors, les Farc qui sont stratèges trouvent une idée. Ils disent aux Pikiki, battez-vous avec nous et nous ferons quelque chose pour vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut plusieurs années avant que les Pikiki soient en mesure de formuler quelque chose qu'ils veulent. Ça gonfle beaucoup les gens du Farc. Ils sont assez pressés. Mais un Pikiki dont on ne sait pas le nom, à part qu'il s'appelle Hohe, comme tous les Pikiki, a une idée. Il dit au Farc, voilà, nous allons vous enseigner l'art du kidnapping. Et vous allez aller en ville et vous allez retrouver Hohe. Bon, les Farc disent ok. Les Pikiki sont plusieurs centaines de milliers, ça vaut bien la peine de faire un peu un effort. Alors, les Farc, et notamment Manuel, leur chef, arment les Pikiki, les habillent, les entraînent, et finissent par demander aux Pikiki, mais comment allons-nous trouver Hohe ? Et les Pikiki disent, oui, bonne question, bonne question. Je vous passe le temps que ça passe avant de vraiment qu'il trouve la réponse. Mais plusieurs années plus tard, un Pikiki qui lui-même sort du rang dit « Il faut vous intéresser à la manière dont le son d'Oe s'est introduit dans les noms. Trouvez le son et vous trouverez « Oe ». Oe, c'est « Oe caché dans ».« Oe », qui est là, c'est oha ou ha oui. Vous trouvez hi oi, celui qui n'est pas là, mais qui était là avant. Donc les FARC ne sont pas tout à fait sûrs de comprendre, mais avec une armée aussi nombreuse, ils trouveront bien des gens. Les FARC vont donc kidnapper des gens et devoir à chaque fois essayer de vérifier auprès des gens qu'ils ont kidnappés s'ils correspondent aux critères des Piquiqui qui, étant beaucoup plus nombreux que les FARC, finissent quand même par imposer leurs critères. Alors, la plus connue des kidnappés, vous la connaissez comme moi, elle s'appelle Ingrid Betancourt. Et quand ils la voient et quand ils l'entendent parler à la télévision, puisqu'en fait les FARC ont introduit la télévision, l'alcool et les jeux vidéo auprès des Piquiqui, entendant son nom, eux qui ne prononcent pas les consonnes, voient dans le nom de Betancourt une HAE. Et cette HAE, c'est-à-dire cette femme, puisque en fait le he est un diminutif de he, he ha, cette femme qui est là, ho u, cette femme qui est là, et à la fois qu'on ne voit pas, ou alors qui ne dit pas la vérité. Et donc ils vont la garder de longues années pour l'interroger. Cependant, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils ont bien compris que la HOAE n'est pas en fait HOE, mais quelqu'un qui peut les mener à HOE. Alors, de longues discussions se déroulent avec les FARC, qui ont des motifs tout à fait différents, vous l'imaginez bien. D'un commun accord, ils vont la garder un certain temps, et puis il sera temps de la relâcher. L'histoire pourrait se finir ainsi, mais elle continue par un autre biais. Il y a quelques années de ça, en fait près de 10 ans maintenant, Jean-Yves Jouannet a publié un livre qui s'appelle « Artistes sans œuvre » et sur laquelle, la couverture de laquelle apparaît un portrait. Alors si je me permets de lire ce qui est écrit juste derrière la couverture, en couverture, ouvrez les guillemets, « Portrait de Félicien Marbeuf, 1907, dédicacé et signé en bas à gauche, « To my friend Félicien », Gloscaped, 1907, BM. On apprend que l'œuvre est déposée au Globscape Art Museum, Bublex, Milonevitch, 1991. Comme vous le savez peut-être, je suis entré dans une forme de controverse avec M. Jouannet, controverse tout amicale, mais controverse tout de même. Alors, dans une intervention précédente, j'ai parlé déjà de ce livre et j'ai expliqué tout le bien que je pensais d'une partie de celui-ci. Qu'est-ce que nous raconte Jean-Yves Jouannet ? C'est tout à fait passionnant. On apprend, pour ceux qui ne le savaient pas, que le père de Félicien Marbeuf, qui s'appelle Louis Marbeuf et qui a fait son droit à Paris, a été proche de Gustave Flaubert. Flaubert, venant chez lui, pour des discussions littéraires et autres, découvre le fils de Louis Marbeuf, un espèce de jeune homme oisif qui ne fait rien, qui ne veut rien faire, à part s'intéresser à ses visions. Le voilà pur spécimen d'une espèce qui aura une certaine suite. On en trouve encore aujourd'hui. Et voilà Félicien Marbeuf, qui, lui, ne voulant rien faire, devient pour Flaubert cette forme de figure canonique du dandy, de celui qui, quelque part, sait ou pense quelque chose, mais ne le dit pas. Flaubert parlera de lui à travers des lettres à Proust, et Proust lui-même aura une longue correspondance, dont parle tout à fait bien Jean-Yves Jouannet, une longue correspondance qui, maintenant, on le sait, ce livre l'introduisait depuis, c'est devenu maintenant une chose que tout le monde sait, la correspondance sera à l'origine de la recherche, et pour la plupart des spécialistes, on sait aujourd'hui que, outre être le personnage modèle de Proust pour l'écriture de la recherche, il est bien probable que Félicien Marbeuf en soit l'auteur. Une fois que cette chose est dite, elle a son importance, mais ce n'est pas notre sujet, M. Jouannet spécule sur le devenir du dit Félicien Marbeuf. En gros, que nous dit-il ? Il nous dit que c'est une figure qui va passionner le tout Paris, un vrai artiste sans œuvre, puisqu'il ne produira absolument aucune ligne de type romanesque, aucune œuvre, si ce n'est une correspondance très fournie avec, avec Proust, correspondance qui, outre à participer à la création de l'intégralité de l'œuvre de Proust, va aussi comprendre un ensemble de lettres qui auront été mises de côté par la plupart des spécialistes de l'auteur, qui sont pourtant conservées à la BNF, où Félicien Marbeuf raconte ses visions. Il raconte ce qu'il voit, et il raconte cette dimension un peu prémonitoire de ses visions. Alors, là où je ne suis pas M. Jouannet, et nous en avons parlé, et nous en parlerons encore, c'est qu'il nous raconte l'histoire d'un Félicien Marbeuf qui, pour des histoires de mœurs, je le fais rapidement, mais l'homme aurait un goût pour les jeunes filles un peu trop jeunes et pour l'époque aurait des problèmes avec la police et devrait s'exiler et aurait disparu. Vite mis au tiroir, vite disparu, comme ça on ne garde que Proust. Évidemment, tout ça irait très bien si cette capture n'était pas assortie d'une supercherie. Monsieur Jouannet met en couverture du livre, en lieu et place de Félicien Marbeuf, qui est mon grand-père, le portrait de son grand-père. Donc, nous en avons parlé, on peut faire des choses dans la vie, on a le droit. Le romanesque autorise un ensemble de choses. Cependant, celle-ci me pose un problème, non pas qu'il l'ait fait, mais je voulais juste là raconter la vraie histoire de la capture de mon grand-père, Félicien Marbeuf, et réparer ainsi, si ce n'est un mensonge par omission, une petite erreur. Il est vrai que Félicien Marbeuf va disparaître de la circulation à Paris. Son père est mourant, et sur son lit de mort, son père va lui apprendre qu'il n'est pas un enfant légitime, mais qu'il est illégitime. C'est un bâtard, un enfant métis, un enfant qu'il a eu outre-mer. Félicien Marbeuf le sait, puisqu'il l'a rêvé plusieurs années auparavant, et qu'il a raconté cette vision dans une lettre à Proust, qui est une lettre assez célèbre. Donc il dit à son père, au moment où il meurt, qu'il le savait. Son père lui donne quelques renseignements, et le voilà parti, d'abord pour la Caraïbe, avant de se retrouver en Amérique du Nord, puis en Amérique latine, principalement dans la ville de Bogota. Dans cette ville-là, il rencontre un homme. Alors, à ce moment-là, comme les voyages sont très longs, on a peu de renseignements sur les dates, mais on sait qu'il va passer une année à Bogota et finir par retrouver sur les renseignements que lui a donné son père, un certain Manuel Rodriguez. Manuel Rodriguez qui aura hébergé son père plusieurs années auparavant et qui, lui, connaît, a priori, cette femme qui serait la mère de Félicien Marbeuf. Alors, quand Félicien frappe à la porte de Manuel Rodriguez, celui-ci d'abord marque un arrêt, et c'est comme ça que Félicien Marbeuf le raconte dans sa correspondance, il marque un arrêt parce que ce visage lui est familier. Puis il l'accueille, il se parle, il lui raconte des histoires de son père qui à plusieurs reprises est venu le voir aux Antilles mais aussi à Bogota. Ils sont très amis et évidemment vient sur la table ce qu'attend Rodriguez et qu'il évite dans les discussions. Félicien Marbeuf vient lui parler de cette femme qui aurait travaillé chez lui. Rodriguez se dit « Je vois pourquoi vous en parlez, puisque le visage de Félicien Marbeuf lui rappelle fortement le visage de cette femme qui s'appelle Lucinda. » Il dit « On a congédié Lucinda. Lucinda ne travaille plus chez nous. Vous savez, on a fait de gros efforts pour intégrer ces autochtones. » Mais ils ne sont que dans leurs croyances et ils sont parfaitement oisifs. Je l'ai renvoyé dans son village du plateau. Il lui indique, et alors Félicien Marbeuf lui raconte à la fois l'émotion d'avoir l'endroit où se trouve en fait sa mère. Il va la retrouver, cependant c'est un endroit qui est très inaccessible et il mettra plusieurs mois pour l'atteindre. Arrivé dans ce village, alors je n'ai pas le nom du village, mais on sait qu'on est dans la région du nœud de Paramillo, sur la cordillère des Andes, sur la face occidentale de la cordillère des Andes, c'est-à-dire au nord-est de la Colombie. Quand il arrive dans ce village, il n'a même pas besoin de se présenter. Voyant son visage, tous les habitants de ce petit village appellent Lucinda. Lucinda se présente devant lui. Elle le salue, elle le reconnaît bien évidemment, et elle l'emmène devant le chef du village pour qu'il se présente. Il dit: je m'appelle Félicien Marbeuf. Dans le village Piquiqui, tout le monde se crispe. Haou, dit quelqu'un. Tout le monde se jette sur lui pour qu'il se taise. Félicien Marbeuf est accueilli comme un roi, est installé dans une case à part. À partir de ce moment-là, plus personne n'a de ses nouvelles. Il disparaît de la circulation. On le dit kidnappé, enlevé, et toutes les recherches qui seront entreprises, nul ne pourra le retrouver. Cette histoire s'arrête là. On n'a pas d'autres informations sur ce qui arriva à Félicien Marbeuf. Mais ce qui m'a permis de revenir et de comprendre l'histoire, c'est que lors d'une correspondance avec Jean-Yves Joinet, la première chose qu'il m'a demandé, c'est de savoir si mon nom s'écrivait avec ou sans E dans l'eau. Ce qui évidemment change tout. Merci.